Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et alors la question que vous posez ce matin, la presse écrite a-t-elle un avenir, Brice ?
Souvenez-vous, au forum de Davos en 1996, un certain John Perry Barlow, qui passait pour un visionnaire de l'Internet, fit cette déclaration. Nous sommes en train de créer un monde où tout un chacun pourra s'exprimer, sans privilèges, ni préjugés de race, ni de naissance, de puissance économique ou militaire. Nous sommes en train de créer un monde où chacun, en tout lieu, pourra exprimer ce en quoi il ou elle croit, aussi singulière que soit son idée, sans peur, ni être contraint au silence ou au conformisme. Fin de citation. Eh bien, rappelez-vous, écrit Nicola Lehmann dans la New York Review of Books, à l'époque, bien des gens pensaient que la révolution numérique allait permettre des progrès spectaculaires de la démocratie. Chacun allait pouvoir donner son point de vue et le monde s'en porterait mieux. Eh bien, la réalité, celle que nous avons sous les yeux, est hélas tout autre. Si cette fameuse révolution numérique a produit des effets dans le domaine politique, c'est bien plutôt une extrême polarisation du débat public, la propagation virale des théories complotistes et voire le terrorisme, et l'entrée du journalisme dans une crise dont on ne sait pas encore si elle sera mortelle ou non. Ce que personne ne pouvait imaginer, écrit-il aussi, c'est qu'un excellent moteur de recherche pourrait un jour attirer un public d'une taille sans commune mesure avec n'importe quel site d'information, sans produire lui-même aucune information originale. Ni que, quelques années plus tard, un média social allait faire encore plus fort avec des contenus produits cette fois par leurs propres utilisateurs. Fin de citation. Et dorénavant, ce sont eux, et vous avez reconnu, c'est Google et Facebook, qui trustent l'argent de la publicité. Et la presse écrite, elle, cherche encore la formule magique qui lui permettrait de vivre en version numérique. Alors, les responsables de cette presse, rappelle Lehmann, ont adhéré successivement à toutes sortes d'illusions rassurantes sur l'avenir de leur profession. On allait, par exemple, enrichir le contenu de la version papier par des contributions de blogueurs non payés. Puis, on imagina que les pure players allaient remplacer les journaux. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux aux États-Unis sont contraints de licencier une partie de leur staff.
Mais Brice, c'est aussi qu'on a tendance peut-être à idéaliser une période, somme toute assez brève, où le journal était la principale source d'information du public et partant une activité très profitable.
Et cette période de Florian ne correspond vraiment qu'à la première moitié du XXe siècle. Alors, c'est vrai, le nombre de titres publiés dans nos pays et leur diffusion étaient considérables. Le modèle économique était simple, les journaux vivaient des petites annonces et surtout des revenus publicitaires. Comme l'écrit Alan Rusbridger, l'ancien rédacteur en chef du Guardian, dans son livre Breaking News, « Plus ça allait, plus nous vendions davantage des lecteurs aux annonceurs que des informations à nos lecteurs. » Mais voilà, la radio, puis surtout la télévision, amenèrent déjà une concurrence redoutable. Leur vitesse de réaction était plus rapide. La presse écrite se sauva en s'orientant vers ce qu'on a appelé un journalisme contextuel. Ce fut l'âge d'or des news magazines. Puisque les faits étaient déjà connus, les journalistes de la presse écrite se spécialisèrent dans leur mise en perspective pour un public dont le niveau d'éducation avait progressé. La presse demeurant un secteur économique florissant, les rédactions pouvaient employer un grand nombre de journalistes et les payer pour travailler sur des sujets durant des semaines. Tout a changé depuis que Google nous a donné l'illusion qu'on nous doit le libre accès à toute information que nous désirons au moment où nous le désirons. Combien de fois n'avons-nous pas vu dans les boutiques de gare qui vendent encore la presse quelqu'un feuilleter un journal ou un magazine, puis le reposer sans l'acheter ? L'idée de devoir payer pour une information sérieuse est devenue problématique. En outre, la distinction entre les faits établis et les opinions s'est érodée. Sur la toile, on prend des commentaires pour des informations. Les gens cherchent prioritairement à conforter leurs opinions préétablies plutôt qu'à s'informer. Alors vous me direz, il existe pourtant des succès. Jeff Bezos, le patron d'Amazon qui s'est offert le Washington Post en 2012 pour 250 millions de dollars, en a fait un business profitable. Comme sur le site du New York Times, lorsqu'on veut lire un article du Wash Post, on tombe sur un verrou d'accès payant qui vous invite à souscrire à un abonnement tout simplement. Or, il existe un public prêt à payer pour des informations exclusives et des reportages de qualité réalisés par des professionnels. The Guardian, en Grande-Bretagne, a opté pour une autre stratégie. Il maintient l'accès gratuit à ses contenus, mais il mise sur la fréquentation de son site. Or, le succès publicitaire est au rendez-vous grâce à un record de 1 350 000 pages vues l'année dernière. Il a su fidéliser en outre 650 000 supporters payants qui versent une contribution mensuelle afin de faire vivre ce grand quotidien de gauche. Enfin, le visiteur occasionnel est invité à faire un don, ça s'appelle « Puisque vous êtes là ». Si nous voulons conserver une presse libre, il faudra bien accepter de payer pour sa consultation. Sinon, il faudra compter sur de riches mécènes pour soutenir nos journaux comme on subventionne les opéras.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Une chronique d'ailleurs accès gratuit. Merci beaucoup cher Brice.